Microcité.
Une émission de l'école de journalisme de Grenoble.
Sur Campus Grenoble 90.8.
16h30, 17h.
Alexandre Lepère.
Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus 90.8 FM. C'est parti pour Microcité, votre rendez-vous du vendredi après-midi. Aujourd'hui, au sommaire de cette nouvelle émission, notre dossier sur le sida, à l'occasion demain de la journée mondiale de lutte contre la maladie. 35 ans après sa découverte, où en est-on dans la prévention et le dépistage du sida? Comment continuer à sensibiliser avec efficacité et éviter le relâchement de la lutte? On en parle dans une dizaine de minutes avec Léo Corcos et son invité en plateau. En fin d'émission, nous nous pencherons sur l'insalubrité des logements étudiants du Crous. Des vers dans les douches, des cafards dans les chambres. Un quotidien difficile pour les locataires de la résidence du Rabot à la Bastille. Julien Penaud leur a donné la parole. Rendez-vous à 16h55 pour notre reportage grand format. Vous nous écoutez sur le 90.8 FM ou sur le www.campusgrenoble.org. Vous pouvez aussi réagir à notre émission sur notre page Twitter avec le hashtag Microcité. Microcité saison 2018-2019 numéro 8, ça commence maintenant. Et tout de suite, place au journal, il vous est présenté par Aurélia Valarier.
L'Assemblée nationale a adopté cette nuit la proposition de loi mettant fin aux violences éducatives ordinaires. Gifles et fessées devraient désormais être proscrites. Cette semaine également, les Restos du Cœur ont débuté leur 34e campagne hivernale. En Isère, la demande ne cesse d'augmenter et les profils sont de plus en plus différents. Luc Chemla a rencontré leur présidente départementale. Enfin, le G20 s'est ouvert aujourd'hui à Buenos Aires, en Argentine. C'est la première fois qu'il est organisé en Amérique du Sud. Les 20 premières puissances mondiales ont 2 jours pour trouver des accords diplomatiques. Microcité. Une loi symbolique pour mettre fin à la fessée, c'est ce qui a été voté cette nuit par l'Assemblée nationale. Proposée par le Modem, elle vise à proscrire les violences éducatives ordinaires. Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Julien Penaud a tendu le micro aux parents d'élèves à Échirolles.
L'éducation avec ou sans fessée, la question revient fréquemment et les avis sont très tranchés devant l'école Françoise Dolto à Échirolles. Laura et Magali, mère de famille, n'arrivent pas à se mettre d'accord.
Je tape pas. J'ai pas d'acte de violence. Je veux pas qu'ils pensent qu'on règle les problèmes avec la violence.
Ça ne marche pas parce que le mien, la punition, il la connaît.
J'enlève la télé, la tablette.
La totale aussi. J'enlève tout et pourtant ça continue.
Un peu plus loin sur son banc, Cristal, 19 ans, a connu la fessée. Sa petite sœur non et elle voit bien la différence à la maison.
Je trouve que ça m'a beaucoup aidé à me remettre les idées en place quand j'étais plus jeune et qu'en fait j'ai une sœur qui s'est pas pris de fessée et qui a très mal dérapé. Parce qu'elle est vraiment partie loin, elle a vraiment pris la confiance sur certaines choses parce qu'elle s'est dit « bon ma mère elle va pas me taper donc je m'en fous en fait ».
Pour Magali, la fessée n'est pas la solution.
Le problème avec la fessée, c'est que si tout petit, on les habitue à la fessée, ils vont connaître que ce système de punition et il n'y a que celle-là qui marchera avec le temps. Si dès le départ, l'enfant, on le punit dans un coin en lui disant « c'est comme ça que tu es puni », hop, il va s'habituer à cette punition et du coup, le coin, ça sera systématique et il comprendra qu'à ce moment-là, il est puni dans son coin.
Le coin peut être la meilleure alternative aux fessées. Dans le monde, 55 pays ont déjà interdit le geste.
Un reportage de Julien Penaud.
Acte 3 ce week-end pour les Gilets jaunes.
Oui, ce samedi, Paris devrait à nouveau être au centre des mobilisations. Suite au débordement de la semaine dernière, pas question pour le gouvernement de lésiner sur la sécurité. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, a d'ailleurs mis la priorité sur les Champs-Élysées, où 31 personnes avaient été blessées le 24 novembre. Piétonnisation des rues, fouille des sacs et contrôle d'identité. Il a également annoncé que toutes les provocations seraient sévèrement sanctionnées et feraient l'objet de poursuites judiciaires. Le G20 s'ouvre aujourd'hui en Argentine. Les leaders des 20 premières puissances mondiales vont se réunir à Buenos Aires pour un sommet de 2 jours. Bonjour Rudy Pupin.
Bonjour Aurélia.
Une rencontre plutôt dominée par les tensions entre la Chine et les États-Unis.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Tous les regards seront fixés sur Donald Trump et Xi Jinping. Les deux dirigeants doivent s'entretenir ce soir pour tenter d'apaiser leurs relations qui est très tendue. Il faut dire que depuis le début de l'année, les deux pays se livrent à une véritable guerre commerciale. Un bras de fer engagé par Donald Trump qui a décidé de taxer 200 milliards de dollars de produits chinois. Depuis, c'est l'escalade. Pékin a riposté de la même manière. Une situation tellement tendue que Trump a même accusé les Chinois d'ingérence dans l'élection de mi-mandat en novembre. L'ambiance risque donc de ne pas être si chaleureuse ce soir.
Mais alors, est-ce qu'on peut s'attendre à un accord pour calmer ces tensions ?
Alors c'est ce que souhaitent les deux pays en tout cas, mais cela risque d'être assez compliqué. Pékin refuse toujours les conditions de Washington, la protection de la propriété intellectuelle ou encore l'ouverture des marchés. Et puis Donald Trump, lui, a maintenu la pression cette semaine. Il ne veut pas revenir sur ses décisions, réfléchit même à de nouvelles sanctions s'il n'y a pas d'accord, relever de 10 à 25% les surtaxes dès janvier prochain.
Merci Rudy Pupin pour toutes ces précisions. Un haut fonctionnaire du Sénat mis en examen pour trahison, Benoît Kennedy, a passé 96 heures en garde à vue. Il est soupçonné d'espionnage au service de la Corée du Nord. Remis en liberté ce matin sous contrôle judiciaire, il a l'interdiction de quitter le territoire et est démis de ses fonctions.
Au Japon, c'est le PDG de Renault qui n'en a pas fini avec la justice.
Effectivement, la garde à vue de Carlos Ghosn a été prolongée de 10 jours ce matin par le tribunal de Tokyo. Arrêté le 19 novembre, l'ex-PDG de Nissan et Mitsubishi est accusé d'avoir dissimulé une partie de ses revenus entre 2010 et 2015, un chiffre qui s'élève tout de même à 38,5 millions d'euros. Donc à la suite de cette garde à vue, plusieurs scénarios possibles. Soit Carlos Ghosn est libéré sans charge, ou alors il peut être inculpé, ce qui pourrait mener à sa possible incarcération. Le tribunal de Tokyo devrait trancher d'ici le 10 décembre. La 34e campagne hivernale des Restos du Cœur est officiellement lancée depuis mercredi. L'an dernier, c'est plus de 130 millions de repas qui ont été distribués dans toute la France. En Isère, l'association a vu sa fréquentation augmenter de 30% entre 2017 et 2018. Selon Brigitte Cotte, sa présidente depuis 4 ans, les profils ont évolué et de nouvelles personnes sont dans le besoin.
On voit arriver de plus en plus de familles monoparentales, essentiellement des mamans avec des enfants, qui malheureusement aujourd'hui pour certaines dorment encore dans la rue parce que on n'a pas les moyens de les loger. On voit arriver aussi les travailleurs pauvres, ce sont des personnes qui travaillent à temps partiel pour qui le revenu ne suffit pas à satisfaire à tous leurs besoins, donc très souvent ils dorment dans leur voiture. On voit arriver, ce qui est très triste je trouve, c'est des retraités, très souvent des femmes dont la pension de réversion de leur mari ne suffit pas à couvrir leurs besoins. On voit arriver aussi ces dernières années des étudiants étrangers qui viennent en France avec des bourses, mais ils ont besoin qu'on les aide. De la classe moyenne, on a ce qu'on appelle les cabossés de la vie. Et vous savez, il suffit de peu de choses. Un divorce, plus de travail ou pas de travail avant pour qu'ils se retrouvent en totale précarité.
C'était Brigitte Cotte, présidente en Isère des Restos du Cœur, au micro de Luc Chemla. La campagne hivernale de l'association durera jusqu'en mars 2019.
À la veille de la journée mondiale de lutte contre le sida, le gouvernement est interpellé par 10 ONG.
Faites preuve d'ambition et de courage politique, c'est ce qui est demandé à Emmanuel Macron par des organisations comme Médecins du Monde ou encore SIDAction, dans une tribune publiée ce matin sur France Info. Elles réclament plus de moyens pour faire face à ce qu'elles appellent un véritable désastre humain. L'an dernier, 940 000 personnes sont mortes de cette maladie. Et je vous rappelle que le débat de Microcité dans quelques minutes portera sur les manières de sensibiliser les populations face à la persistance du virus. Il y avait de la musique et des animations, c'est maintenant le silence rue Jean Prévost à Grenoble. Pour des raisons de sécurité, le bar associatif L'Engrenage a fermé ses portes le 7 novembre sur ordre de la mairie. Un lieu qui proposait gratuitement des concerts, des projections de documentaires ou encore des cours de boxe. Une véritable déception pour les habitants du quartier de Saint-Bruno. Alexandre Lepère, vous êtes rendu sur place.
Un lieu qui se conjugue désormais au passé. 3 semaines après la fermeture du bar, c'est le temps de la nostalgie pour Aurélie, une habituée de L'Engrenage.
C'est vrai que le fait de pouvoir avoir des soirées à prix libre avec des consommations au coût vraiment limité, et ben ça me permettait de pouvoir sortir 2 fois par semaine, de rencontrer à nouveau énormément de gens. Enfin, il y a vraiment une super bonne ambiance conviviale, pas comme ailleurs.
Coïncidence ou non, cette fermeture intervient au même moment que la rénovation du quartier Saint-Bruno, un projet porté par la mairie qui inquiète Najouba, gérante d'un restaurant de poissons juste en face de L'Engrenage.
On a senti déjà, il y a quelques temps, qu'il allait y avoir du changement, que tous ces lieux comme ça, où il y a justement pas mal de personnes de toutes origines et tout, qui allaient un petit peu disparaître petit à petit. Ça va perdre l'âme du quartier, malheureusement.
Soutenu par le quartier, la mobilisation s'organise. Une pétition en ligne a réuni près de 5000 signataires. Pour Riyad, l'un des gérants du bar, l'objectif est maintenant d'ouvrir dans de nouveaux locaux.
Fort de ces soutiens, nous, on a dit, c'est pas, on se laissera pas faire, quoi. On estime qu'une mairie comme celle de Grenoble, elle se doit de proposer des solutions de relogement à une association comme la nôtre. On a demandé que le dialogue s'engage clairement avec les mairies, un dialogue franc, efficace et rapide.
En tout, un peu plus de 2000 euros ont déjà été récoltés pour sauver le bar, L'Engrenage.
Et pour précision, sachez que la mairie n'a pas souhaité réagir. Enfin, un concert de soutien pour le bar L'Engrenage sera organisé au Beau Bar le jeudi 13 décembre.
La France toujours au sommet de la gastronomie.
Oui, le grand chef français Guy Savoy continue d'émerveiller les papilles. Pour la 3e année consécutive, son restaurant à la Monnaie de Paris, qui porte son nom, a été élu meilleur restaurant du monde par la liste. Ce classement regroupe l'avis de tous les guides, des critiques et du public. En football, la 15e journée de Ligue 1 commence ce soir. Au programme, l'AS Saint-Etienne accueille le FC Nantes, le FC Nantes, au stade Geoffrey-Guichard à 20h45. En Ligue 2, un match un peu plus difficile attend les Grenoblois avec la réception demain à 14h du FC Metz, actuel leader du championnat.
Merci beaucoup Aurélia pour ce journal. On vous retrouve en fin d'émission pour un rappel des titres.
Microcité.
Avec nous dans un instant, nous faisons le point sur la lutte contre le sida. 16h40 sur Radio Campus Grenoble. On revient après ce son. C'était Song 2 de Blur, 16h42 sur Radio Campus Grenoble. On reprend ses esprits et on passe au dossier.
Le dossier.
Et pour parler de ce dossier autour de la sensibilisation de la lutte contre le sida, je reçois Léo Corcos et son invité. Bonjour Léo.
Bonjour Alexandre. Et en effet, on estime qu'il y a en France 140 000 séropositifs, dont 25 000 qui l'ignorent. Et plus d'un quart de ces séropositifs l'ont été trop tardivement, ce qui retarde leur prise en charge et freine la lutte contre la transmission du VIH. Dans une tribune, Aurélia l'a rappelé tout à l'heure, des ONG ont demandé à Emmanuel Macron d'agir pour vaincre le sida en une génération. Alors comment continuer à sensibiliser efficacement et ne pas relâcher les comportements de lutte contre la maladie? On en parle avec Pascale Leclerc, la chef de l'unité VIH au CHU de Grenoble. Bonjour.
Bonjour.
Alors, docteur Leclerc, on va d'abord commencer par écouter Marina Kamnochkine. Elle est infectiologue et spécialiste du sida.
C'est un sujet qui n'intéresse plus grand monde quand même. Ce n'est plus aussi spectaculaire puisqu'effectivement, avant, les gens mouraient du sida. Il y a sans doute moins de peur de se faire contaminer. Et effectivement, il y a parfois des gens à qui j'annonce leur séropositivité et qui disent « Ah bon, bah comme ça, ça s'est fait ». Donc, qui n'ont pas du tout cette peur qui était associée à l'épée de Damoclès qu'on avait au-dessus de la tête quand on était séropositif.
Alors, docteur Leclerc, est-ce que le sida n'intéresse plus aujourd'hui ?
Je ne crois pas qu'on peut dire les choses comme ça. C'est-à-dire que les gens, effectivement, ont moins peur parce qu'ils l'associent moins à une maladie mortelle. Mais on voit bien, quand on demande aux gens d'aller se faire dépister, ils ont toujours peur puisqu'ils hésitent à aller le faire. Et je crois que vraiment, s'il y a un message clé, c'est qu'il faut que les gens osent aller se faire dépister, qu'ils fassent le pas. Tout le monde y a toujours un petit peu pensé dans sa vie, mais d'y aller, c'est ça le vrai bon moment et c'est le vrai bon moment de prévention.
Chaque année, c'est 6000 nouveaux cas en plus en France. C'est un chiffre qui est assez stable. On a de nouveaux comportements qui se sont un petit peu développés, comme le TROD, le prélèvement d'une goutte de sang et qu'on met ensuite en contact avec des solutions un peu réactives et mettre en évidence donc si la présence d'anticorps anti-VIH. On a le PrEP également, c'est l'utilisation de médicaments antirétroviraux qui permettent de contenir un petit peu le VIH. Est-ce que ces comportements, ça suffit ou est-ce qu'il faut réellement faire plus encore? Et surtout, où est-ce qu'il faut faire plus?
Mais on en revient toujours au même problème, c'est-à-dire que la PrEP, qui consiste à prendre un traitement quand on estime une vie sexuelle à risque d'attraper ce virus, si on prend un traitement avant, on n'attrapera pas le virus. Mais il faut encore avoir fait la démarche de se dire « je suis à risque » et donc d'être allé consulter. Le TROD, qu'on fait dans le médecin associatif ou l'autotest qu'on peut aller chercher à la pharmacie, c'est pareil. Pour faire cette démarche d'aller le chercher, il faut soi-même, en toute connaissance de cause, se dire oui, il y a un risque potentiel, il faut que je sois courageux et que j'y aille.
Vous parliez de démarche, justement, dans les années 90, des associations comme ACT UP parlaient de « la connaissance est une arme » ou « l'information, c'est le pouvoir ». Est-ce que ces slogans sont encore une réalité aujourd'hui avec 6000 cas de plus chaque année?
Alors, on trouve 6000 nouvelles personnes chaque année, mais dans l'eau, on trouve des gens qui étaient déjà infectés depuis longtemps. Or, on sait qu'il y a de toute façon au moins encore 6000 nouvelles infections chaque année. C'est-à-dire qu'on court toujours derrière les nouveaux infectés. Comme ils ne sont pas dépistés, ils ne sont pas traités, donc ils continuent à infecter d'autres personnes. Le message clé, c'est que si on est traité, on ne transmet plus le virus.
C'est un peu une lutte sans fin, en fait, ce que vous nous dites, pour essayer de... C'est toujours un tonneau percé, en fin de compte?
Un petit peu, oui. Un petit peu, parce qu'il faut vraiment une action massive sur un territoire donné, dans un groupe de personnes données, pour que si plus personne n'est infecté, eh bien, du coup, il n'y aura plus de transmission et donc il n'y aura pas de nouveaux cas. Mais il restera toujours le problème des gens qui arrivent d'autres endroits. C'est-à-dire qu'il faut, je veux dire, à la seconde où on va lâcher la pression, l'épidémie va redémarrer.
Sur la question de l'information, on va écouter désormais Sandrine Fournier. Elle est la directrice des programmes France pour le site d'action.
Les jeunes en particulier sont de moins en moins informés, tant sur les modes de transmission que sur les moyens de s'en protéger, surtout. Et par ailleurs, les fausses croyances persistent à un point qui est assez sidérant, on va dire. L'idée que le VIH pourrait être transmis par la salive, par l'urine, par la transpiration, par une piqûre de moustique, ou encore la vie dure. Une information qui est encore malheureusement assez peu connue, qu'il faut absolument diffuser, marteler, c'est qu'une personne qui vit avec le VIH et qui prend son traitement ne transmet plus le VIH.
16h47, vous êtes toujours sur Microcité et nous sommes avec Pascal Leclerc, chef du service VIH au CHU de Grenoble. Pascal Leclerc, 35 ans après la découverte du virus, est-ce que le problème principal n'est pas devenu celui de l'information?
Je ne crois pas, même si ce qu'il dit, ce n'est pas un problème d'information, c'est la question de s'approprier l'information. C'est-à-dire que tout le monde a entendu parler de l'histoire, c'est est-ce que c'est mon histoire? Dans les fausses idées sur la transmission, globalement, tout le monde sait que c'est une transmission sexuelle. Mais c'est plus facile de symboliquement imaginer d'autres transmissions plutôt que de se regarder soi-même vis-à-vis de ses prises de risque.
Comment on sensibilise sur le comportement, justement? Parce que vous dites qu'en effet, la question sexuelle revient quand on pense à la transmission du VIH. Comment est-ce qu'on sensibilise maintenant, au-delà de juste dire « faites attention, il y a toujours un risque d'attraper le sida si votre comportement sexuel n'est pas assez bon ».
Alors, ce n'est pas qu'il soit bon ou mauvais, c'est qu'on croit toujours dans sa vie que par rapport à d'autres, on est moins à risque que d'autres, ce qui est tout à fait réel. Mais le virus s'en fout, il suffit d'être un petit peu à risque pour être potentiellement infecté. Et il y a quand même une méthode simple qui est d'aller se faire dépister.
Justement, est-ce que vous n'avez pas peur aujourd'hui, maintenant, on peut traiter le VIH, on peut même vivre avec. Est-ce que vous n'avez pas peur d'une banalisation un petit peu de la maladie pour justement cette prévention et pour le dépistage?
Si c'était si banal que ça, les gens iraient se faire dépister sans émotion. En fait, ils n'y vont pas. On rêverait, il avait même été proposé en France que tout le monde aille se faire dépister au moins une fois et que ceux qui continuaient à pouvoir prendre des risques se fassent redépister. Ça n'a toujours pas été fait. Donc voilà, autour de vous, vous-même, faites des dépistages, dites aux gens autour de vous de le faire. C'est aussi le début de l'entrée dans une prévention, parce que si on fait un dépistage, on se dit « mais oui, si je suis honnête avec moi-même, oui, c'est possible, j'aurais pu l'attraper ».
Comment on agit sur cette, comment dire, il y a toujours un écart entre penser le dépistage, penser se faire dépister et y aller. C'est pas là justement qu'il faut agir.
Voilà, alors on va essayer de faire des actions qui permettront une plus grande proximité, du style j'y pense, je peux le faire tout de suite. Et du coup, en limitant la distance entre le moment où on a envie de le faire et le moment où on le fait, on pense qu'il y a plus de gens qui iront. C'est donc le principe des trottes par le monde associatif, les autotests, en médecine préventive universitaire. On peut évidemment faire des tests à tous ceux qui le veulent.
Considérant ensuite les gens dont les gens qui adaptent ce comportement, admettons ce comportement, restent ensuite d'autres risques, celui notamment du relapse, ce phénomène qui est un peu de renoncement un peu croissant à l'usage du préservatif, toujours dans ce cadre de certes il y a toujours un risque du sida, mais aujourd'hui maintenant on peut un peu vivre avec. Est-ce que ce phénomène là n'est pas finalement le pire ennemi de la lutte?
Non, parce que si les gens réellement se sentent concernés, ils vont faire un dépistage. Ils ont la chance d'être négatifs, ils veulent le rester. Si d'avoir une sexualité plus safe, moins à risque, leur semble difficile, on a tout à fait la possibilité d'aller justement vers cette fameuse PrEP qui permet, sur une période de sa vie où on va prendre des risques, de se protéger du VIH en prenant ce traitement préventif. En se protégeant, ça nous évitera de l'attraper, de contaminer d'autres gens, et ça cassera le cycle.
Question de moyens à présent. Agnès Buzyn a annoncé qu'une marque de préservatif serait remboursée. Est-ce que c'est vraiment suffisant?
En tout cas, ça va arrêter l'argument des gens qui n'utilisent pas le préservatif en disant c'est trop cher. Donc il faut aussi limiter les dérives, c'est-à-dire que après, il faut encore, ça va être remboursé à 60-70% et ce sera les mutuelles qui prendront la différence. Mais déjà, ça va, je vous dis, empêcher qu'on dise « je n'utilise pas de préservatif parce que c'est trop cher ».
Est-ce que ce n'est pas une mesure un peu gadget, histoire de faire une mesure pour faire une mesure à la veille de la journée
C'est une réponse à une demande qui dure depuis très longtemps. Et c'est sûr que c'est moins spectaculaire que d'autres mesures. Mais du moment qu'on dit aux gens « responsabilisez-vous », ils n'auront pas ce moyen de dire « Ah, mais regardez, je ne pouvais pas, c'est trop cher. »
Et Pascal Leclerc, si on passe aux médias, et si on s'intéresse aux médias à cet aspect de prévention, est-ce que les médias aujourd'hui en parlent assez justement?
Alors, les médias en parlent. Je me mets à la place des médias. Ce n'est pas très facile parce qu'on joue sur deux tableaux, c'est-à-dire la prévention dans des groupes à très haut risque. Là, le problème n'est pas d'informer les gens parce qu'ils le savent, mais de changer leur comportement. Et d'un autre côté, la prévention sur la population générale, où là, les gens s'estiment à très faible risque. Et du coup, c'est comment amener vers le dépistage des gens qui s'estiment à très faible risque.
Donc, deux catégories. Mais est-ce que vous avez vu une évolution récemment, une évolution positive des médias dans cette prévention contre le sida?
Alors, il y a quand même des choses qui ont été efficaces. C'est qu'on voit des patients plus tôt. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on voit encore 20% de patients beaucoup trop tard, c'est-à-dire qu'ils se sont mis en danger massivement pour leur santé, en plus du risque de contamination. Mais on commence à voir des gens qui se viennent nous voir alors qu'ils sont infectés que depuis quelques jours.
Et aujourd'hui, donc, nous sommes dans une ère de réseaux sociaux. La place des réseaux sociaux dans cette sensibilisation, dans cette lutte, vous voyez ça comment? C'est vraiment une chose sur laquelle il faut insister, surtout aujourd'hui, surtout qu'un public jeune attiré par les réseaux sociaux?
Alors, une partie des réseaux sociaux, on ne peut pas dire qu'ils nous aident beaucoup, puisqu'ils sont au contraire la source de multiples rencontres à haut risque.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'on se donne rendez-vous et on dit on va s'éclater et puis tant pis pour le risque. C'est-à-dire qu'ils ne nous aident pas tous dans ce contexte-là. Mais heureusement, il y a des associations qui, elles, sont vraiment sur le terrain en disant même si vous avez une vie sexuelle qui est plus à risque, il y a moyen que vous ne tombiez pas malade et que vous n'infectiez pas d'autres gens.
La prévention, elle doit passer aussi par les réseaux sociaux, justement. Elle doit s'adapter un petit peu à l'ère du temps.
Oui, mais ce n'est pas l'outil qui est mauvais. C'est comme toujours, ça dépend qui s'en sert.
Aujourd'hui, pour conclure, nous avons, l'ONU-SIDA, le programme des Nations Unies, disait « Nous avons besoin d'un accès universel au dépistage du VIH. Ce dépistage doit être aussi accessible qu'un test de grossesse. » Vous parliez justement de l'importance du dépistage. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour y arriver?
L'étape en France, c'est vraiment que les gens aillent vers le dépistage. Après, il y a vraiment une offre de soins considérable. Alors, les autotests sont encore payants, mais ça va un peu s'arranger. Ils ont déjà diminué de 50% là en quelques mois. Et de toute façon, en allant voir un médecin, on peut avoir une sérologie, ce sera gratuit. En allant au centre de dépistage, c'est gratuit. Il y a vraiment une offre de dépistage qui est large. Il faut juste faire le pas d'y aller. Et qui n'est pas qu'un pas de distance géographique, qui est aussi un pas d'affronter le résultat.
L'objectif de l'ONU-SIDA avoué, c'est 3 fois 90 à l'horizon 2030, 90% de séropositifs diagnostiqués, 90% des diagnostiqués mis sous traitement et 90% de traités. Est-ce que c'est réaliste comme objectif?
Alors, dans un pays comme le nôtre, les deux dernières parties sont déjà acquises, c'est-à-dire que 90% des gens qui ont été dépistés sont adressés vers le soin avec un soin efficace et il nous manque la première partie, c'est-à-dire il nous manque toujours nos quelques dizaines de milliers de séropositifs qu'on ne connaît pas. Quand on dit on ne les connaît pas, eux-mêmes ne se connaissent pas séropositifs, donc ils ne rentrent pas dans le système de soins.
Et en deux mots, pour finir ce débat, ce dossier, qu'attendez-vous de cette journée mondiale demain de lutte contre la maladie du sida?
J'aimerais bien, par rapport au X, Journée mondiale du sida, à laquelle j'ai déjà participé, que les gens aillent vers le dépistage. La suite, ça s'enchaîne, c'est facile pour nous médecins. Donc, aillent vers le dépistage, mais qu'ils n'y aillent pas que demain ou après-demain. Que régulièrement autour d'eux, ils disent « et toi, tu t'es fait dépister » et que petit à petit, ça s'enchaîne.
C'est suffisant, une journée mondiale de lutte contre le sida ?
Qu'une journée, on s'en fout un peu du moment que les médias comme la vôtre relaient l'information régulièrement.
Eh bien, merci Pascal Leclerc, c'était le mot de la fin. Je rappelle que vous êtes chef du service VIH au CHU de Grenoble. Et la journée mondiale contre le sida, c'est demain. Un chiffre pour finir, 37 millions de personnes vivaient avec le virus en 2017 et ce sont 940 000 personnes qui y ont succombé. Alexandre, je vous rends la main.
Merci Léo pour la conduite de ce débat et merci aussi à Xavier Pourroy pour la préparation de ce dossier. Il est 16h55, vous êtes toujours sur Radio Campus Grenoble. Tout de suite, notre grand format. Douche glacée, murs moisis et problèmes d'isolation. Les conditions de vie dans certaines résidences Crous frôlent l'insalubrité. Julien Penaud s'est rendu dans l'une des pires, celle du Rabot, perché dans la Chartreuse à Grenoble, en dessous de la Bastille. Les résidents y décrivent leur quotidien comme Amaïs au Rabot depuis 5 ans.
Perché dans la Chartreuse, en dessous de la Bastille, la résidence du Rabot est isolée. Ses résidents y décrivent un calvaire comme Amaïs, étudiant en STAPS depuis 5 ans.
Le bordel, c'est pourri. Vas-y.
Merci.
Installe-toi, assis-toi. Bon, alors quel problème on a rencontré dernièrement? On a eu des vers dans les douches, par exemple, dans la tuyauterie en fait. Et donc tu as envoyé les vers tomber. Donc on s'est plaint de ça. On a eu la chaufferie qui a eu un problème. Il y a eu pendant une semaine et demie, deux semaines, on a eu que de l'eau glacée. Un jour, on n'a pas eu d'eau du tout dans le bâtiment. J'étais pendant 2 ans à Chartreuse. Et j'ai vraiment quitté parce que c'était suintant, quoi. Je mettais la main sur le mur, c'était de l'eau, quoi. Je pouvais poser une feuille, elle se collait, et puis elle s'imbibait d'eau. Au bout d'un moment, j'avais trouvé la petite technique de mettre un matelas contre le mur. Le matelas, il avait vraiment moisi, complètement moisi. Il y a des gens à Chartreuse encore aujourd'hui, il y a besoin de rien mettre, quoi. Le mur a moisi un peu, quoi.
Quittons maintenant le bâtiment Vercors pour aller en face, dans le bâtiment Chartreuse. Mathias et Jallo nous font une petite visite.
Ouais, ici, c'est pratiquement la catastrophe, quoi. L'insalubrité et l'état, par exemple, des chambres, c'est pas très fameux. Par exemple, dans la chambre dans laquelle je suis, déjà, vous pouvez vous imaginer les murs, les peintures qui se dégradent. Donc, du coup, je pense qu'il y a besoin d'une grande rénovation ici. Donc, ouais.
Et là, parmi les quatre, il y a une seule où effectivement, de l'eau chaude, le reste, il n'y a pas d'eau chaude.
Les toilettes, waouh. Là, c'est le pire, quoi. Déjà, le fait que ce soit des toilettes turques, déjà, c'est pas grave. Et en plus, que c'est insalubre.
On est tous une famille ici, mais sur le plan des édifices, il y a beaucoup de choses à faire, quoi.
Frédéric Jantès, directeur adjoint du Crous de Grenoble, promet que la direction fait des efforts.
Il y a effectivement des bâtiments qui sont plus vétustes que d'autres, on va être très clair. Mais en revanche, la dynamique de l'établissement, c'est une modernisation en cours. Tous les ans, nous mettons 1 million, cette année 1 million 3 de rénovation et de maintenance, notamment par exemple de la peinture. On peut pas répondre à tout, je l'entends, mais il y a une vraie volonté.
Pour Yusdine Ozdemir, secrétaire général de la CGT Crous, le problème vient de l'État.
Quand on récupère les résidences universitaires, on laisse dégrader pendant 30 ans, 40 ans. On n'investit pas régulièrement. Moi, je peux pas dire que c'est que la faute d'une directeur régionale. L'État, il assume pas ses responsabilités, ni pour réhabilitation des résidences universitaires, ni construction de résidences universitaires.
L'ensemble des rénovations est annoncé pour 2023 à Grenoble. Quant au gouvernement, il promet 60 000 logements étudiants de plus en France d'ici 2022.
C'était le reportage grand format de Julien Penaud. 16h59 sur Microcité, il est bientôt l'heure de se quitter. Mais juste avant, un dernier point sur l'actualité avec Aurélia Valarier.
Demain, un nouveau rassemblement des Gilets jaunes devrait se tenir à Paris. Pour éviter tout débordement, de vastes mesures de sécurité ont été prises par le gouvernement. 8000 manifestants sont attendus dans les rues de la capitale. Carlos Ghosn, PDG de Renault, voit sa garde à vue prolongée de 10 jours. C'est une décision du tribunal de Tokyo. Il est accusé d'avoir dissimulé une partie de ses revenus entre 2010 et 2015. Côté météo à Grenoble, la pluie sera présente tout le week-end et ce jusqu'à lundi. Les températures ne devraient pas dépasser les 9 degrés. Et enfin, ce soir, la 15e journée de Ligue 1 commence. L'AS Saint-Etienne accueille le FC Nantes. Coup d'envoi à 20h45. Microcité.
Et il est 17h, c'est Microcité, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission que vous pouvez retrouver en podcast sur le site www.campusgrenoble.org. D'ici là, passez un bon week-end et rendez-vous à la semaine prochaine. Même lieu, même heure.